la tête qui viennent et je me dis voilà, ce son ça marcherait avec ça, ce kick ça rentrerait bien ici, ce clap c'est excellent, et puis j'essaie de tout mélanger. Bon bah c'est de la musique quoi.
Quand je regarde les featuring de tes titres, les chanteuses avec qui tu travailles, Demi Lovato, Ray ou plus récemment Ina Wrolsen, je vois qu'elles proviennent de scènes différentes, pop, R&B, électro. Est-ce que ça signifie que toi-même tu gravites sur toutes ces scènes, que tu te nourris d'influences venant de la pop comme du hip-hop par exemple?
100%, like I tend to prefer to write R&B.
Oui, c'est clairement ça. Tu sais, en tant qu'auteur, je préfère avant tout écrire une chanson R&B sur des rythmes électro. C'est vraiment quelque chose d'assez cool à faire. Donc ouais, je préfère piocher dans des influences, des backgrounds R&B, parce que j'ai grandi avec ça tout simplement. Hein. Ce sont ces paroles, ces textes, ces chansons que j'utilise pour m'influencer. Et d'ailleurs, j'en écoute toujours autant. Hein. Tous ces artistes. Bon là, en ce moment, j'ai pas écouté le dernier album de Cardi B, mais ouais, j'écoute beaucoup de R&B old school, comme des gens comme Drew Hill, mais aussi de la pop, hein, de la pop moderne, des gens comme Calvin Harris, ou encore le nouveau son de Dua Lipa, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un excellent titre pop.
Il faut préciser qu'au-delà de tes singles, tu produis aussi pas mal de remix d'Ellie Goulding à Charlie XX par exemple. Souvent, les remix, c'est un moyen de se faire connaître, mais toi, tu continues à en produire. Qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice? C'est une façon pour toi de te rapprocher d'artistes que tu aimes particulièrement, voire de revisiter des grands classiques de la dance?
I guess so. But at the time, more than often.
Oui, c'est vrai qu'un remix au début, ça aide à se faire connaître. Mais moi, j'aime surtout l'exercice de production. Même si c'est vrai que maintenant, je fais plus trop de remix parce qu'il y a tellement de remix sur le marché que c'est assez dur d'être original, d'être spécial. Et donc, pour moi, la logique, c'est plus de faire un échange. Par exemple, si aujourd'hui, on me demande un remix pour Ellie Goulding, eh bien, je dirais, ouais, cool, je le fais, d'accord, mais en retour, je la veux sur un morceau où on serait réunis tous les deux. Donc, tu vois, c'est un moyen d'ouvrir une discussion finalement. Et ça marche, hein. Plus je deviens bien connu d'ailleurs, plus c'est facile de demander et d'avoir quelque chose en retour.
J'ai lu dans la presse, et tu me diras si c'est vrai ou pas, que tu allais bosser avec Martin Solveig. Je sais qu'il bosse son nouvel album en ce moment. Alors, c'est vrai? C'est fait?
Yeah, next.
Oui, oui, ça va se faire. Il va venir au tout début du mois de juin. Il va venir me voir à Londres. Je sais qu'on va prendre le thé vers 17h et puis ensuite on va produire un peu de musique.
Décembre 2020. Antoine Baduel reçoit The Picards Brothers.
Et ce soir, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir deux talents français, comme on aime tant vous en présenter. Ils s'appellent les Picard Brothers. Jusque-là, c'est dans l'ombre que s'exprimait leur talent musical. Les Picard Brothers, ce sont deux producteurs qui sont vite passés du solo de guitare en région parisienne à la production de gros hits à Los Angeles. Alors, une carrière absolument incroyable, me direz-vous. Oui, ils ont bossé pour des stars comme Diplo, par exemple, avec le fameux Electricity avec Dua Lipa, mais également pour Mark Ronson et plus récemment sur l'album Madame X de Madonna. Décidément, beaucoup de Français quand même qui ont travaillé, parce qu'il y a aussi mon ami Mirwes qui a bossé dessus. Alors, en tous les cas, c'est en solo qu'ils se lancent désormais et dans la house music avec un single qui s'appelle It's Not Over. Et vous me l'accorderez, c'est du son qui est tellement bon que ça nous fait très plaisir de les inviter ce soir en direct sur Radio FG, les Picard Brothers, Maxime, Clément. Bonsoir, bienvenue à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, originaire de Seine-et-Marne, originaire de Coulommiers, hein, on le disait tout à l'heure hors antenne, puis passé par Los Angeles, un nom, les Picard Brothers. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est la proximité de la Picardie? C'est racontez-nous, première ligne de la fiche Wikipédia, on veut savoir.
Bah, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Il se trouve qu'on est vraiment frères et que Picard, c'est notre nom de famille.
C'est votre nom de famille, donc c'est tout simplement les Picard Brothers. Étrange qu'on vous ait jamais reçu par le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes d'excellents producteurs. Cela Merci. Dit, c'est vrai que vous étiez plutôt dans un univers, j'allais dire pop, R&B, urbain, et que vous vous amusiez et que vous y excelliez d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a conduit du coup à l'électro, à la house que vous défendez aujourd'hui, et finalement, vous qui kiffez tant les instruments acoustiques?
On s'est retrouvé à produire pour pas mal d'artistes et il y a un certain moment on s'est dit bon bah maintenant on a envie de faire exactement ce qu'on veut et pas avoir de choses à valider exactement.
Ouais, bien sûr.
Et nous notre truc ça a toujours été ce son un peu French House de cette époque-là et on s'est dit écoute on est français, c'est la musique qu'on aime.
On y va. Et alors je l'ai dit, votre parcours est marqué de productions incroyables, un Diplo, Madonna. Ça a commencé comment pour vous? Je crois que ça s'est passé avec Diplo, hein, c'est ça?
Ouais, tout à fait. En fait, c'était un peu un hasard presque au départ, puisque Maxime avait eu un contact par mail avec Diplo. Et on avait envoyé quelques instrus, quelques morceaux, et il a répondu presque instantanément qu'il trouvait ça bien, qu'il était intéressé de nous rencontrer. Il se trouve qu'il jouait à Paris au Social Club à l'époque, une semaine après, je crois.
Devenu le sacré aujourd'hui.
Tout à fait. Et du coup, on l'a rencontré à cette occasion et ça s'est fait très vite. Ensuite, on a collaboré avec lui sur pas mal de choses. Et maintenant, ça doit faire 7 ans qu'on collabore avec lui et donc avec tous ces artistes que vous avez cités avant.
Alors, on va s'écouter justement votre single It's Not Over et on est de retour dans un instant avec les Picard Brothers qui sont donc mes invités ce soir et qui vont nous parler à la fois de leur parcours incroyable mais également de cette nouvelle production. It's Not Over, leur single, les Picard Brothers qui sont mes invités en direct hein, ce soir dans le studio de Radio FG. Les Picard Brothers qui sont mes invités, ce duo, ces deux frères hein, français qui ont produit notamment des morceaux pour le dernier album de Madonna, Madame X, et qui sont très très proches de Diplo pour lequel ils collaborent depuis 7 ans. Alors, ce travail de Hitmaker, ça vous a conduit à une carrière solo, ça s'est fait rapidement, je veux dire, avec cette envie de créer vos propres œuvres. Est-ce qu'il y avait une crainte aussi de perdre quelque chose par rapport à tout ce travail que vous aviez entrepris, ou au contraire c'était vraiment deux démarches complètement distinctes, celle de continuer à travailler pour des gros artistes internationaux et en même temps d'avoir votre précaré, votre espace?
Moi, je crois qu'on avait vraiment envie d'avoir cette presque récréation pour nous, de faire la musique qui voilà, cette musique qui nous appartient,
ouais.
Sur laquelle on, voilà, on a vraiment la main du début à la fin et qu'on peut vraiment réaliser peut-être qu'on la souhaite.
Alors c'est quoi d'ailleurs la suite? Ça va être de multiplier les productions avec d'autres artistes, parce que forcément quand on travaille pour des artistes comme Madonna, comme Diplo, forcément ça peut aussi donner l'envie ou l'idée de les inviter à faire un featuring ou des choses comme ça. Est-ce que ça justement c'est quelque chose, une option que vous gardez, ou au contraire vos projets solo c'est vraiment à part?
C'est pas forcément à part, mais bon, on a besoin de faire nos gammes encore, j'imagine. Et puis dans le futur, on espère bien pouvoir joindre un peu plus les deux, notre activité de producteur et d'artiste. Quoi.
Alors, vous avez sorti It's Not Over, qu'on vient d'écouter, mais aussi un remix de Flume, The Difference, qu'on a eu le plaisir de jouer en avant-première, d'ailleurs, sur FG. Merci. J'ai lu que vous étiez fan des Daft Punk, mais alors, c'est quelque chose qu'on peut peut-être entendre par moment dans It's Not Over, mais pas dans vos autres productions. Qu'est-ce qui nourrit et influence aujourd'hui vos productions? Il y a un style de house en particulier que vous aimez? Parce qu'aujourd'hui, la house, c'est devenu extrêmement large, c'est vraiment un genre majeur. Il y a de la disco house, il y a de la tech house, il y a même il y a toujours cette house filtrée française qui est là depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous nourrit le plus aujourd'hui? C'est qui les artistes qui vous influencent?
Disclosure, pour qui on vient de faire un remix qui sort demain, évidemment.
Ah, très bien.
Et y a énormément d'artistes français, Dombreski, Boston Bun, tous qui sont un peu nos amis aussi, qu'on fréquente assez souvent quand on est ici.
En tous les cas, retenez bien leur nom, Picard Brothers. Ils ont écrit, composé pour Diplo, Mark Ronson, Beyoncé ou encore Madonna. Les Picard Brothers qui auraient pu rester dans l'ombre comme beaucoup de hitmakers, mais ils ont préféré se lancer dans l'arène. Et le résultat, c'est notamment un très bon single house qu'on vous a fait découvrir qui s'appelle It's Not Over. Merci en tous les cas,
merci,
les amis, Maxime, Clément, c'était un plaisir de vous accueillir.
Février 2018, Antoine Baduel reçoit Jabberwocky.
Et oui, le groupe français Poitevin a marqué 2017 avec un album, très bel album, Make Make, et vous avez sûrement épaté hein, avec le titre Honeymoon, playlisté sur FG. De Late Nights à Honeymoon, les Jabberwocky ont beaucoup squatté la playlist de Radio FG, et c'est pas moi qui m'en plaindrai. Que de chemin parcouru depuis évidemment le Photomaton, ce single qu'on avait été d'ailleurs les premiers à jouer sur Radio FG. C'était dans le Starter FG d'Hakim Akli, l'émission des nouveautés, et ça continue. Le groupe Electropop sort d'une longue tournée pour promouvoir le tout dernier album Make Make. Fin d'une histoire, bientôt le début d'une nouvelle, forcément. Et surtout, un plaisir les recevoir. Bonsoir les garçons, comment ça va?
Salut.
Bonsoir.
Et bien toujours un plaisir en tous les cas de vous accueillir. Vous êtes à la maison ici, vous le savez. Make Make, c'est le nom de votre dernier album grâce auquel vous avez pu faire une très belle tournée française, des dates incroyables, notamment l'Olympia, rencontrer vos fans un peu partout. Vous l'avez vécu comment alors cette tournée?
Bah très bien, on ne s'est jamais vraiment trop arrêté de tourner finalement, on a enchaîné les deux albums assez vite et voilà, ça nous a permis de voir la France de long en large et puis d'aller un peu aussi dans les autres pays francophones. Et que de beaux souvenirs, hein, je pense.
Alors, il y a certains artistes qui prennent plus leur pied en studio quand ils conçoivent leur album, quand ils sont justement dans une logique un peu de travail artistique, de bulle, surtout quand il s'agit de duo, de groupe, de trio. D'autres qui vraiment s'éclatent quand ils sont aux tournées. Mais les choses sont tellement différentes, les sentiments qu'on a sont tellement distincts. Vous êtes dans quel délire? Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer?
Nous, on aime les deux, hein, c'est deux kiffs différents. Après, c'est bien de concrétiser son travail en live, de pouvoir faire écouter en direct les morceaux qu'on a créés en studio devant notre public et voir comment ils réagissent, quoi.
À la base, vous étiez étudiant quand vous avez commencé vos premiers projets, étudiant en médecine à Poitiers. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes artiste. Certains pourraient dire que vous avez vraiment changé de trajectoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Sérieusement, connaître un tel virage aussi vite, est-ce que ça a été simple à vous y habituer, à l'appréhender? En d'autres termes, est-ce qu'on apprend à entrer dans la peau d'un artiste?
Je sais pas si on apprend, mais en tout cas donc pour nous ça a été très simple parce que c'était vraiment notre passion. Donc une fois dès qu'on a eu la chance et l'occasion de pouvoir vivre de ça, en fait on a foncé dedans. Et aujourd'hui on le regrette pas, en fait on essaie de continuer au maximum à pouvoir produire de nouvelles choses et continuer en ce sens-là.
Alors vous le savez, sur FG on a succombé hein, avec devant votre single Last Night issu de l'album. On va s'en écouter d'ailleurs aussi un petit extrait tout de suite. Et évidemment, ça m'amène aussi à parler de musique, de votre mélange pop électro, parce que tout à l'heure, on écoutera évidemment le morceau Honeymoon. La porte d'entrée pour comprendre votre travail, c'est quoi votre démarche artistique? C'est les instruments, c'est les gimmicks, c'est la rythmique que vous étudiez?
Il n'y a pas de porte d'entrée prédéfinie. En fait, on a commencé des morceaux de façon différente. Nous, on aime bien souvent commencer par les instruments, bien sûr, quand même, parce que c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Mais des fois aussi, on commence à partir de mélodies de chant, de personnes avec qui on a travaillé. Donc, il n'y a vraiment pas de recette, en fait. C'est vraiment sur le moment et sur le morceau qu'on choisit.
Et alors, on parlait à l'instant de votre musique, justement, de votre album Make Make. La page se tourne, forcément. Une aventure qui touche à sa fin, c'est forcément de nouveaux projets. Alors, comment vous la vivez, cette période? Parce que c'est un peu toujours une période de transition. Introspection, réflexion, blues, espoir, joie, passion, amour.
Mais en fait, c'est vraiment complètement une transition parce que on est sur la fin, mais on aura quand même une série de dates au printemps-été,
ouais.
Quelques dates encore de live, et du coup là, on profite de la période actuelle pour faire beaucoup de studios et comme on l'avait fait un peu entre les deux albums, aller aussi chercher de nouvelles influences et proposer des choses nouvelles.
Est-ce qu'on retrouvera toujours Tessa B autour de vous, auprès de vous, justement parce qu'elle avait été très présente, notamment sur scène, ce qui est, moi je trouve justement très riche pour un trio comme ça, un groupe électro, d'avoir la performance d'une vocaliste et qui en plus je trouve est une très très jolie voix, l'électro.
Ah ouais, avec Marine on s'est toujours bien entendu. Ça fait un an et demi, ouais, qu'on tourne ensemble. Donc on va finir cette aventure ensemble du deuxième album. Ouais.
Alors une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on est aussi dans une phase de transition, je pense, au niveau de la musique. Il y a eu une phase deep house qui était vraiment qui a d'ailleurs été vraiment une rampe de lancement, je pense, pour une nouvelle génération de la French Touch qui a pu s'exprimer avec finalement des sonorités éclectiques, mais qui ont vraiment rayonné à travers le monde. Ça commence avec des artistes comme The Avener, mais également ont émergé des artistes comme vous, les Synapson, les Kungs, plus récemment le son chill wave, on va dire, d'artistes comme Petit Biscuit. Et pour autant, on a un peu le sentiment qu'en ce moment, certains partent dans d'autres directions, étonnantes même. Quand on voit un Armin van Buuren qui se met à faire de la funk, c'était pas ce qu'on pouvait s'attendre à entendre. On voit des artistes qui viennent de l'EDM qui font de la pop et des artistes deep qui se posent des questions. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit, vous?
Complètement, là, vu qu'on est on vient de finir l'album, on est en train de retourner au studio, on cherche un petit peu à voir la direction où on veut partir. Et on l'a pas encore trouvé complètement, mais on commence à trouver quelques clés, en tout cas. Pour nous, en tout cas.
Et vous partez dans quelle direction? Alors, vous pouvez le dire, vous êtes sur FG. On est à la cool.
En fait, on reste un peu dans les choses qui ont pu aussi influencer certains morceaux du deuxième album, des sonorités un peu rétro et un état d'esprit un peu plus house. Et en fait, on continue de creuser là-dedans et pour cibler quelque chose. Mais s'il faut mettre deux gros mots, on dira comme ça, house rétro, mais ça veut tout et rien dire.
Non, mais ça veut tout et rien dire. Mais ça, je pense que ça plante un peu le décor. C'est intéressant, d'autant qu'on a eu il y a juste quelques minutes, juste avant vous, un organisateur de soirée qui nous parlait justement du clubbing très festif, très house des années 90. Je pense qu'il y a quelque chose en tous les cas à creuser là-dessus.
Septembre 2021, Antoine Baduel reçoit Waracles.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Waracles. Il n'y a pas que la house et la scène parisienne dans la French Touch. Il y a aussi la scène provençale débordante de talents, avec un point commun, un attrait très fort pour les musiques mélodieuses et surtout la création électronique. Et c'est le cas évidemment du prodige Waracles qui allie musique électronique et musique symphonique sur chacun de ses projets. Le producteur français qui nous l'a prouvé hein, lors de son premier album, Waracles Orchestra, et plus récemment avec son dernier single en date qui s'appelle Inkid. Waracles, qui est mon invité ce soir sur FG. Kevin, bonsoir, bienvenue.
Salut,
à toi.
Ça va?
Toujours un plaisir de t'accueillir sur FG, t'es chez toi ici, tu le
merci
sais bien.
Beaucoup.
Alors Waracles, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as toujours aimé jongler entre musique électronique, musique symphonique. Alors d'où te vient cette envie, cette appétence toujours de vouloir mixer et faire se rencontrer ces deux univers qui, a priori, se méconnaissent?
Oui, tout à fait. Mais pour moi, si tu veux, j'ai eu le goût de ce truc-là quand j'avais vu Metallica jouer avec un orchestre symphonique. Et pour moi, j'avais vraiment vu que ça complétait et que ça donnait une largeur et une profondeur au rock, pour le coup, à ce moment-là. Et j'avais l'impression que ça remplaçait pas le côté guitare et très rock de Metallica. Et pour le coup, je me suis dit, ben, si ils le font aussi bien avec le rock, peut-être que c'est possible avec la musique électronique.
Et tu fais justement aussi partie de cette scène très mélodique, hein, qui, comme son nom l'indique, a une approche mélodieuse de la musique, aussi presque plus intellectuelle, tu vois, aussi de cette musique. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est une scène qu'on retrouve notamment dans le Sud. Je pense à d'autres artistes comme French 79 ou 79, Alson, Oxia. Alors, comment t'expliques que dans le Sud, justement, il y a une telle appétence pour les sons et la scène mélodique?
Alors là, franchement, j'en ai aucune idée.
Tu sais pas, est-ce que c'est des lieux? Est-ce que c'est...
Je pense peut-être qu'on est moins influencé par les modes aussi. Il y a moins ce truc-là parisien, tu vois. Mais pour le coup, moi, je viens de Paris à la base, hein. Je suis né à Paris, j'ai vécu 20 ans à Paris et aujourd'hui je suis à Aix, mais c'est vrai que t'as moins ce truc là avec les lieux phares et qui dictent un petit peu les tendances, etc. T'as moins ça, donc peut-être qu'il y a une liberté.
Et peut-être aussi qu'à Aix et à Marseille, il y a un peu une exception où justement les artistes sont peut-être un peu plus curieux, et je pense qu'il y a peut-être aussi une appétence pour tout ce qui est un peu moins formaté, plus underground, et ça c'est très très ex-Marseille quand même. Une semaine spéciale French Touch, évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté aussi de toute cette scène, ce bouillonnement de la scène mélodique, mais également de la rencontre entre la création électronique et symphonique avec Waracles, qui est un parfait ambassadeur de cette esthétique musicale. Alors, je disais tout à l'heure, hein, Kevin, à Marseille et à Aix, il y a eu un bouillonnement en termes de scène électronique cet été, impressionnant, avec d'un côté des lieux qui se multiplient. On pense évidemment au R2, au Baou, mais également au Baby, par exemple, ou des festivals. Je pense à Contralous, au Delta, à l'Utopia, qui se déroulera également à la fin du mois, et j'en passe, de l'autre des artistes comme ceux qu'on a déjà cités. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle scène, d'une nouvelle French Touch dans le Sud en ce moment?
Ouais, j'ai vraiment l'impression. Il se passe quelque chose dans le Sud. Alors voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit pas uniquement l'été, parce que pour l'instant c'est un peu ça. Mais vu comme ça marche, je serais pas étonné que ça devienne que ça devienne tout le temps et toute l'année, quoi. Donc,
ce serait pas étonnant. Moi, j'ai entendu quelques rumeurs comme ça disant que certains lieux open air pourraient installer des chapiteaux pour rester ouverts. Et puis il y a aussi des lieux dont on peut parler, hein, parce qu'il faut aussi leur rendre hommage, qui sont là toute l'année, comme le Cabaret Aléatoire, le Chapiteau, la Friche de la Belle de Mai, le Baby Club. Ah bah, ça fait quand même du matos. Oui. Alors, pour terminer, tu as demandé à tes followers sur Instagram s'ils avaient des questions à te poser. Donc voici ce qu'on a retenu. La première question, c'est: est-ce que l'Orchestra Tour va faire son grand retour? J'ai besoin de revivre ce moment. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Orchestra Tour, c'est vraiment une tournée que tu as organisée dans un certain nombre de lieux, d'endroits. Moi, j'avais eu la chance d'aller au Théâtre de Verdure à Nice pour le voir, avec justement Waracles sur scène, accompagné d'un orchestre symphonique. À l'époque, c'était l'Orchestre de Provence.
Ouais, tout à fait. Et oui, en fait, on va revenir l'année prochaine, vers l'automne 2022. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment hâte. Là, je commence à écrire les morceaux qui vont venir remplacer quelques morceaux qu'on avait fait pendant le premier tour. Et vraiment hâte, parce que ça va être une tournée qui va être en France, mais aussi jusqu'à Moscou, par là. Donc voilà, on va.
Et quand c'est comme ça, tu voyages toujours avec ton orchestre, c'est-à-dire vous voyager pratiquement à une trentaine de personnes?
Ouais, alors là, il y a des questions logistiques. Je sais pas si je pourrais avoir le même orchestre en France et dans les pays de l'Est, par exemple, parce que je sais pas si c'est possible de trimballer.
Techniquement, mais voilà, bien sûr, il y a les instruments, c'est très compliqué, quoi.
Très, très compliqué. Ouais. Et c'est vrai que mon tourneur s'arrache un peu les cheveux. C'est pas comme quand il m'envoie juste à Cracovie, par exemple.
Bien sûr.
Là, c'est facile.
Bien sûr. Et là, tu es en live solo quand c'est comme ça.
Oui, oui, oui.
Mais en live, pas en DJ set.
Non, voilà, je fais pas de DJ set.
Autre question, c'est Qu'on se régale qui pose la question, à quand ton prochain album ?
Ben, mon album, pour la même occasion, hein, pour l'automne 2022. Et donc, comme on avait fait avec Orchestra, on repartira en tournée. Et voilà quoi.
Et ce qui est bien, c'est que tes followers et tes fans, en tous les cas, voient grand pour toi. Autre question d'Emixam qui te demande, est-ce que tu as d'autres projets à venir, comme avec France Télévisions ?
Ouais, France Télévisions, c'est le projet que j'avais fait avec Hugo Clément, donc, qui a ses reportages sur le front. Oui, effectivement, j'en ai. J'ai aussi des longs métrages. J'ai plein de choses qui arrivent, des choses hyper sympas. Et voilà. Je sors pas beaucoup en ce moment.
En tous les cas, il était là ce soir dans le studio FG. Ça nous fait très plaisir de l'accueillir. Notre ami Kevin Rodriguez alias Warracles, qui a mis les pieds sur terre, mais il a toujours la tête dans les nuages et ça nous fait du bien. Le producteur français, ou plutôt le compositeur français, qui allie à merveille musique électronique et musique classique. Et juste avant de se quitter, je te propose qu'on se réécoute un de tes classiques. Je crois que c'est le premier single qu'on avait joué de toi sur l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, avec Porto sur FG. Magnifique production signée Warracles.
Juin 2015, Antoine Baduel reçoit Bromance.
Et c'est ce soir un plaisir, un honneur pour moi de recevoir un des labels les plus influents, les plus créatifs et surtout sa Dream Team, puisque je reçois ce soir Brodinski et toute la Dream Team du label Bromance, avec Mead et Surkin qui sont également présents. Bromance, emmené par un artiste qu'on aime beaucoup, il est rémois, c'est Brodinski. Il crée le buzz à chacune de ses sorties et la petite famille ne cesse de nous surprendre par la qualité de ses productions. Brodinski, bien sûr, mais également Club Cheval, Geza Fulstein, Pantero 666 ou encore Louisa, tous impriment un vrai talent français qui s'arrache à l'étranger. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit ce soir toute la team du label Bromance. Les garçons, Brodinski, Surkin, Mead, bonsoir, bienvenue sur Radio FG.
Bonsoir.
Bonsoir à tous, Brodinski, bonsoir. Là, on est ravis de te recevoir. Bromance, c'est un label qu'on aime beaucoup, qu'on suit. Récemment, j'avais en interview Louisa, également Club Cheval. Guillaume et Quentin étaient ici même il y a quelques mois. Votre influence est vraiment réelle sur la scène française. D'ailleurs, les clubs se battent vraiment pour booker vos artistes. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la spécificité du label Bromance ? J'entends souvent que vous êtes aussi hype que provocateur dans le son.
Je dirais qu'on est authentique. Je dirais que c'est peut-être ça. Je ne sais pas si c'est ça qui fait la différence, mais en tout cas, on adore ce qu'on fait et on s'aime beaucoup aussi. Je pense que ça fait la différence. On est très très potes.
Vous êtes très proches. Alors c'est vrai que ça, c'est souvent cette notion qui revient, le côté de crew, le côté de petite famille. Mais j'ai l'impression aussi que chacun est finalement quelque part très libre dans sa création. Les prods s'enrichissent les unes par rapport aux autres. C'est un peu un kibbutz musical quelque part.
Ouais, je dirais qu'on a vraiment créé un camp. Et on s'entraide tous les uns les autres, on écoute la musique des uns des autres et surtout on respecte les projets, les ambitions des uns des autres et on essaye que tout aille de l'avant. Donc c'est très vertueux.
Alors, pour qu'un label comme le vôtre buzz autant à Paris comme à l'étranger, c'est qu'il est devenu aussi le symbole de quelque chose. Alors, c'est quoi selon vous ? Et selon toi, selon vous les garçons, hein, n'hésitez pas à prendre la parole, à réagir. C'est cette quête assidue de qualité quand certains pensent que le niveau de l'électro s'abaisse et l'envie de dépasser les frontières justement de l'électro et de la techno, en tous les cas de genres très définis ?
Je pense qu'on arrive à dépasser les choses, surtout par une énergie positive, comme disait Louis, c'est-à-dire que on va pas être dans la critique, au contraire, on va s'entraider, écouter ce qui se fait autour, autant aux États-Unis où Louis a beaucoup voyagé, où nous on tourne, et grâce à cette positivité, bah on va toujours de l'avant et puis on découvre de nouveaux styles et puis ça nous permet d'être créatif.
Alors, puisqu'on parle de Bromance, évidemment, on va évoquer une des dernières sorties, celle de Generation, alias Surkin, avec Mia et qui s'appelle, avec une pointe d'ironie, The New International Sound. Alors, parlez-moi un petit peu de ce projet qu'est Generation. Surkin, tu vas en parler très très bien puisque tu en es le digne représentant, et de cette collab avec Mia.
Alors, en fait, Generation, c'est un projet qui... C'est pas vraiment un nouveau pseudo pour moi, c'est plutôt genre vraiment une nouvelle esthétique, un nouveau concept qui dépasse un peu la musique, qui va être aussi sous plusieurs formes en fait.
Ah ouais, c'est-à-dire
je suis en train de travailler sur un magazine de trucs. Enfin, ça va être vraiment pas limité à la musique et la collab avec Emae, donc ça a été assez naturel parce que j'avais bossé sur son dernier album et c'est un artiste qui correspond bien au projet, avec qui j'avais envie de faire des trucs aussi de mon côté. Et elle a accepté tout de suite de venir sur le morceau. Et donc je suis ravi d'avoir pu bosser avec elle sur ça. Et on est assez content du résultat. Et puis de le faire avec Louis et toute l'équipe, c'est super cool.
Et oui, je vous le disais, c'est donc toute la Dream Team du label Bromance qui est à nos côtés. Brodinski qui est d'ailleurs là. Et je crois que c'est la première fois que tu viens en live. On t'a eu plein de fois en interview et c'était toujours par téléphone, en direct, juste avant un live, un gig, un festival pour nous parler d'une date. Et là, ce soir, Louis, ça nous fait plaisir de t'avoir. Alors, puisqu'on dit justement, on parle de cette avant-garde, cette influence de Bromance, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître aussi votre opinion sur la scène électro actuelle, qui va de la deep à vos productions, en passant également par des choses plus commerciales, plus formatées comme l'EDM. Est-ce que vous tirez profit de la popularité mondiale de ces musiques et de ces sonorités?
Je pense que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de regarder la place de la musique électronique dans le monde et également en France, bien évidemment, mais je pense que c'est une musique qui s'est beaucoup démocratisée et donc d'une façon, bien évidemment, qui nous a aidé à nous d'accéder à des endroits et de se retrouver à des moments où des gens découvraient notre musique également. Et de plus en plus de gens sont intéressés par cette musique et c'est extrêmement positif. Aujourd'hui, il se passe plein de choses, voire même en France. Je connais je pense que c'est pareil pour vous deux. On connaît beaucoup de musiciens extrêmement talentueux ici à Paris et je pense que c'est vraiment beau à regarder aussi comment évolue la scène française et aussi bien d'un point de vue national que international.
C'est vrai que la scène française en ce moment évolue, j'allais dire aussi, il y a une deuxième révolution qui la touche, hein. C'est vrai qu'elle rayonne, elle est peut-être moins formatée que certains genres ne le sont, comme la deep allemande ou comme l'EDM dans certains pays, notamment en Europe du Nord. Et c'est vrai qu'à l'inverse de certains artistes qui ont cette facilité du copier-coller quand ils produisent, vous aimez aussi exploser les étiquettes. C'est ça que j'aime bien, moi, dans votre label. Vous croyez que la période actuelle, justement, fait que les gens sont plus ouverts qu'avant et que finalement, quelque part, de casser comme ça les codes-barres, naviguer d'un genre à un autre, changer d'univers, c'est plus propice aujourd'hui en 2015 que ça ne l'était il y a 5 ans?
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, Internet a quand même pas mal brisé les barrières entre les genres. En fait, il y a de plus en plus de jeunes, je pense, qui écoutent autant de rap que de musique électronique, que de house ou de techno et qui peuvent aussi se cultiver et aller regarder un peu vers le passé. Donc j'ai l'impression, moi, que les barrières sont en train de lâcher. Il y a beaucoup moins de camps comme il pouvait y avoir peut-être dans les années 90 où les personnes étaient très centrées sur le genre et défendaient uniquement le genre qu'ils écoutaient. Là, on est quand même dans un modèle où les gens peuvent vraiment écouter ce qu'ils veulent, quoi.
Alors, preuve que vous êtes les dignes héritiers de cette scène française, votre rapport aussi à l'image. Et ça, c'est très intéressant parce que l'image, justement, le graphisme, tout à l'heure sur Kin, tu nous parlais justement d'un projet qui allait aller au-delà de la musique avec justement un support papier, un magazine. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est vos clips qui sont toujours très travaillés, parfois trash d'ailleurs. Hein. J'ai encore en tête celui de Can't Help Myself de toi, Louis. C'est aussi un marqueur fort du label Bromance, Louis Brodinski.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement simple pour tout le monde de regarder un peu tout comme étant de l'image et de la direction artistique. J'ai l'impression qu'on a envie un peu de se casser la tête, voilà, et de rester intègre parce qu'on aime vraiment ça et de créer du contenu et d'aller voir des gens qui sont des vrais artistes et de collaborer sur un travail visuel qui est pour nous aussi important que la musique.
Alors il y a un aspect qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes pote, on le disait tout à l'heure, mais aussi avec d'autres acteurs imminents de la scène française. Vous n'êtes pas non plus enfermé sur vous au niveau du label. Par exemple, Pedro Winter, Yuxek, et au lieu de jouer la concurrence, justement vous jouez sur une certaine émulation. Est-ce que ça explique votre succès à tous, celui de cette nouvelle vague française qui chasse en meute plutôt que de se tirer dans les pattes?
Milda. Personnellement, moi je suis arrivé sur Paris une fois que Headbanger, j'ai été fan d'Headbanger, j'ai été fan de
cette... T'étais où avant?
Moi je viens de Lille, tout comme toute mon équipe de Club Cheval, mon groupe de musique. Du coup, quand on est arrivé à Paris, on était fan de cette scène-là, on s'est mis à jouer leurs morceaux et on a été nous-mêmes hyper vite intégrés en fait, du fait de créer cette musique, de faire beaucoup de sons. Et on a été hyper contents d'être accueillis comme ça et de pouvoir collaborer avec ces gens-là. Donc aujourd'hui, nous, on fonctionne de la même manière. On ne s'est pas mis à se refermer sur nous-mêmes et à se dire maintenant. Au contraire, on tourne beaucoup avec eux. C'est des gens qu'on côtoie tous les jours à Paris et c'est hyper cool. C'est plus que de la musique maintenant aujourd'hui. C'est vraiment une bande de potes avec qui on passe énormément de temps et on adore fonctionner comme ça en famille.
Alors, est-ce que ça veut dire que vous cherchez aussi à créer un écosystème plus général autour de Bromance en créant des soirées, en étant pote avec des DA de clubs? Est-ce qu'il y a cette volonté justement d'être un peu un label à 360 et puis quelque part incontournable?
Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi autour de cette table. On a commencé derrière les platines, on a commencé dans les clubs. Je pense qu'encore aujourd'hui, je me retrouve derrière les platines dans les clubs deux à trois fois par semaine. Ou alors en festival. Et je pense que ça reste quand même une grosse partie de notre métier. Et donc d'organiser des soirées autour du label, autour d'une idée commune et d'une musique qu'on aime. Je me disais que c'était que ça coulait de sens et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait entièrement partie de notre métier quoi.
Et bien voilà, c'était l'équipe du label Bromance, le label qui vient de sortir un nouveau maxi de Generation en featuring avec Mia et qui s'appelle The New International Sound. Notez également que Bromance et ses artistes se succéderont à la soirée Boiler Room qui sera donc une spéciale qui sera organisée dans le cadre de l'événement Super Club au Grand Palais à Paris. Ce sera le 16 juin prochain. Et puis je vous remercie tous, Louis Brodinski, mais également Mid Surkin d'être venu en live dans les studios d'FG. C'était un plaisir. J'espère que c'est pas la dernière fois en tous les cas. Ouais, merci à tous les trois, c'était un plaisir.
Décembre 2020, Antoine Baduel reçoit Synapson.
Et les stars ce soir, eh bien, ce sont les Synapson. Souvenez-vous, June Mayamai, All In You, Fireball. Ça fait déjà 10 ans que Radio FG vous a fait découvrir ce duo français Synapson au départ dans le Starter FG d'Akimakli avec un tout premier single qui était le Sentimental Affaire. Depuis leur premier album Stendhal Syndrome, les deux Parisiens ne se sont absolument pas laissés enfermer dans la capitale. Au contraire, chaque nouveau titre est une invitation au voyage et ce nouvel album qui vient de sortir est une carte postale Global Music Volume 1. Il nous livre eh bien voilà des petites cartes postales musicales venant du monde entier et ce soir les Synapson sont mes invités. On commence avec Paul tout de suite en interview et tout à l'heure on retrouvera Paul et Alex en mix à partir de 19h. Comment tu vas Paul?
Ça va très bien. Écoute, ravi d'être
là. Ça me fait très plaisir de t'accueillir ce soir, de t'avoir. Ça fait déjà trop longtemps. Et le plaisir, tu le sais bien sûr, partagé. Alors Global Music Volume 1, c'est un album très riche. On trouve d'ailleurs pas mal de morceaux qui sont déjà sortis, parmi lesquels Benzema. On retrouve aussi Alex. Ça, c'est un nouveau morceau des Synapson qui vient de nous rejoindre à l'instant. Ça va, mon Alex?
Ça va, et toi, mon Antoine?
Oh, bah ouais, tout est soufflé, hein, évidemment, toujours.
Je rentre de Biarritz.
Ah,
il est presque à l'heure pour ton anniversaire.
Exactement.
Bon anniversaire, Antoine.
Lengueno, excusez-moi pour la prononciation. Et puis, ils sont tous issus de collaborations avec des artistes du continent africain, comme la majorité de l'album. Alors, comment est né cet amour pour la culture et ces sonorités qu'on appelle volontiers world ou ethnique?
C'était surtout essayer d'aller chercher des sonorités que nous on n'était pas capable de reproduire en studio. Et c'était aussi l'occasion de faire des rencontres qui sont toujours assez géniales, avec des influences et des univers artistiques différents.
Alors du coup l'album c'est à la fois une invitation au voyage mais aussi une succession de rencontres, parce que chaque titre c'est un featuring, c'est une voix, c'est une collaboration. C'est souvent le cas d'ailleurs avec vous, cette envie d'échanger avec d'autres artistes. Est-ce que c'est ça qui vous plaît dans la manière de bosser? C'est d'avoir comme ça tout à coup une espèce de coup de foudre, de relation très intense, très forte sur un morceau, et puis ensuite d'inventer une autre histoire, de créer, d'écrire quelque chose d'autre avec un autre artiste?
C'est complètement ça, surtout qu'on mise vachement sur le côté unique de chaque expérience. Et on a de la chance avec Synapson, parce qu'à chaque fois qu'on fait une session studio, je pense à celle de Moussa Ngaré, on en prend plein les yeux, ça se fait en quelques heures. Et on arrive toujours l'artiste avec qui on collabore a toujours la même vision que nous du morceau, donc tout va très vite, tout est très fluide.
Ouais, c'est fluide, ouais, c'est ça.
C'est incroyable, ouais. Franchement, là, on a beaucoup de chance.
En général, on dit qu'Alex est plutôt axé sur les mélodies. Paul, toi, tu t'occupes plus de la production. Est-ce que c'est vraiment ça, la répartition des rôles, du tandem Synapson? Est-ce que ça a évolué justement avec le fait de faire venir d'autres intervenants?
Disons que c'est tu viens de citer nos points forts respectifs, mais après
il y en a plein d'autres.
On a appris l'un de l'autre, tu l'as dit en début d'interview, le groupe a 10 ans maintenant, franchement, on ne calcule pas qui fait quoi. L'important, c'est qu'à la fin, on retrouve notre patte.
Moi, j'ai quand même une question. Qui déniche justement tous ces talents qui viennent du monde entier? C'est vous deux? C'est un travail de sourcing? Il y en a un plus qui s'occupe de ça ou...
On a une super équipe et un label qui nous aide et qui est force de proposition.
Parlons-en.
C'est ça, voilà. La plupart du temps, en fait, on propose des featuring à des gens qu'on écoute. Tout à l'heure, tu citais le morceau Yizé avec Alex, on a écouté en boucle. C'était Noël dernier, je crois, son EP. Oumou Sangaré, on joue un remix. qui avait fait fureur à Calvi, etc. Donc on voulait aussi faire notre propre cartouche avec elle, tu vois.
Ouais. Voilà. Alors, le dernier single qui vient d'arriver pour illustrer votre album, c'est Toujours. Alors, avec les featuring du chanteur sénégalais Las et de Team Dup. Alors, je ne prononce pas toujours parfaitement.
Si, c'est parfait.
Hein,
c'est parfait.
Alors, il semble. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même aux antipodes de June Mayamay. Et moi, j'y vois pourtant un fil conducteur, c'est-à-dire une fidélité à ce que vous produisez depuis le début. Est-ce que c'est une question essentielle pour vous? C'est un débat récurrent quand vous produisez, justement, de rester à la fois fidèle à des histoires, de revenir comme ça, d'avoir des artistes qui vont, qui viennent? Comment ça se passe?
Alors, on voulait revenir un petit peu à nos premiers amours, notamment donc toute cette influence, mais on voulait en proposer une version 2.0. Et puis, on n'est pas obligé forcément d'apporter ce côté un peu musique du monde par le featuring, mais plus par la musique,
par la compo,
elle-même,
bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Et du coup, d'amener un artiste français à chanter dessus. Et honnêtement, quand on a fait ce morceau-là, on a tout de suite pensé à Team Dup.
Eh bien, les garçons, on parlait de Global Music, hein, évidemment, votre album marqué par ce volume 1 qui laisse entendre qu'il y aura une suite. Alors, est-ce que vous avez produit assez de titres pour préparer un deuxième album? Est-ce qu'il faut s'attendre à des remixes? Il faut s'attendre à quoi?
Non, mais en fait, si tu veux, ça fait presque 2 ans qu'on mûrit cette idée-là de Global Music. Et effectivement, il y a encore des maquettes qu'on n'a pas pu terminer à cause de cette année un peu exceptionnelle là pour nous tous. Et du coup, voilà, je pense qu'il y aura un volume 2. Voilà. Alors, il n'est pas fini, mais il y a déjà des tracks dans les tuyaux.
Alors, les Synapsons, c'est aussi un tandem qu'on a connu pour de la Deep House. Est-ce que vous avez tourné la page de ce genre, de cette esthétique musicale? Alors, ou alors est-ce qu'il faut s'attendre à des petites surprises?
Eh ben, écoute, on y revient un peu, puisque les morceaux les plus deep de l'album, c'est Iluna Bara, donc, qui veut dire coucher de soleil en basque, et également Super Sonnery, qui est un morceau qu'on avait fait en partenariat avec Audemars Piguet, et qui sont les morceaux les plus deep, entre guillemets, qui nous fait on revient un petit peu à ce qu'on écoutait à l'époque, Daniel Stenberg, Nico Stojan, etc. Et on a une envie quand même de se réimprégner de tout.
Mais
ça.
Mais vous avez toujours joué entre les deux, donc là maintenant qu'il y a eu un album vraiment définitivement imprégné de culture du monde, ça serait pas mal de nous faire soit une petite surprise avec des remixes ou alors un petit EP 100% Deep House, quoi.
Bah, tu lis dans les cartes, Antoine.
C'est pour ça qu'il va y avoir
un cartomancien.
Il n'y en aura pas autant que la plus grande discothèque du monde, mais il risque d'y avoir quelques volumes.
Bah, tu nous en vas rassurer. Alors, cet album, c'est le fruit de vos explorations, hein, de vos rencontres. Alors, petit quiz avant le mix, on va voir quels voyages vous ont le plus marqué. Votre meilleur voyage, celui que vous n'aviez pas, vraiment, celui dont vous n'aviez pas envie de revenir.
On essaie de répondre en même temps.
Ouais.
Allez, 1, 2, 3,
Tahiti. Ah, très bien. Le voyage le plus fatigant, celui où vous avez le plus bougé. 1, 2, 3.
Nouvelle-Calédonie.
Ah ouais?
Ouais, j'étais fatigué quand même, 23 heures d'avion.
Oh, t'es chaud, attends.
Non, moi, tu sais quoi, je vais te dire, la tournée dans les Alpes qu'on a fait, Greg, où on a fait genre une date par jour avec 4 heures de voiture à chaque fois.
Ça, moi, c'était fatigant. Moi, j'étais monté dans votre tourbus, ça m'avait impressionné.
Ah ouais, le tourbus.
Alors, le voyage, une fois sur place, où vous vous êtes dit pourquoi on est venu déjà, c'est plus beau sur Google. 1, 2, 3.
Thessalonique. Ouais, j'irais parce qu'on est arrivé, le pays était en crise, tout fermé, on s'est demandé ce qu'on foutait là.
En Grèce. Et alors, le voyage pour lequel vous étiez moyennement motivé, mais qui s'est transformé en une expérience inoubliable.
Alors ça, je vais faire une réponse un peu générique, mais ça arrive très souvent, tu sais, c'est comme les soirées où t'es pas trop motivé, et en fait c'est la folie, tu vois, c'est les meilleurs. Ben là, alors, c'est pareil, souvent il y a des endroits qu'on connaissait pas, ou alors on doit partir un peu loin alors qu'on rentre de quelques grosses dates françaises où on est fatigué, et en fait c'est toujours les meilleurs.
Septembre 2016, Antoine Baduel reçoit Madeon et Porter Robinson.
Et la relève de l'électro. Le premier, Madeon, nous avait surpris par sa jeunesse, son talent et ses collaborations déjà prestigieuses. Le second, Porter Robinson, est un jeune artiste américain très vite épaulé par des DJ comme Zedd et Skrillex, incarnant cette nouvelle génération talentueuse de l'électro. Madeon et Porter signent actuellement un single, Shelter, et ce sont mes invités ce soir de l'Happy Hour FG. Madeon, Porter Robinson, bonsoir, good evening.
Salut,
bonsoir. Hi Porter, how you doing?
Hello, I'm good, how are you?
I'm very good, thank you. Il va bien, ils vont bien, ils sont avec nous en direct. Alors d'abord les gars, on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer tous les deux, sachant que vous menez de belles carrières solo. Madeon, toi qui as une approche du studio bien particulière, est-ce que tu as trouvé en Porter un alter ego de ton travail artistique?
On s'est rencontré quand j'avais peut-être 12-13 ans, donc ça fait très très longtemps qu'on se connaît et qu'on est très proches et qu'on a appris ensemble à faire de la musique. Et on a toujours voulu collaborer ensemble, donc on savait qu'on le ferait un jour, on savait juste pas quand. On a eu la chance de tous les deux avoir des carrières qui ont démarré au même moment. Et puis après avoir terminé nos albums respectifs, on s'est très vite dit que c'était le bon moment pour essayer de voir ce qui se passerait si on se retrouvait en studio. Et donc effectivement, ça a été une expérience assez exceptionnelle puisque on avait déjà une relation de musiciens avec des goûts très similaires, des sensibilités similaires. Et donc c'était exactement ça. C'était un vrai alter ego.
Un vrai alter ego. Porter, is Maddie on your alter ego?
In some ways, I think so.
Ouais, en quelque sorte, il pense que oui.
Yes, we've been influencing each other for a very very long time since we were both really children, and so in some ways, I think this collaboration is kind of inevitable.
En fait, oui, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes, comme nous le disait Madeon, depuis qu'ils sont depuis très longtemps. Donc évidemment, oui, en quelque sorte, Madeon est l'alter ego de Porter et réciproquement. On dit que l'union fait la force, les garçons. Est-ce que vous aviez envie d'incarner, comme je le disais, la jeune génération, celle qui va mettre dehors l'ancienne génération des vieux DJ?
Alors nous, en fait, je pense que ce qu'on représente surtout, c'est une génération de producteurs qui a découvert la musique électronique sur Internet comme une musique d'écoute et pas forcément comme une musique de club. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressé à cette musique à un âge où c'était trop tôt pour vraiment avoir tout le contexte de fête, le contexte de club. Et donc, du coup, ça informe notre musique où, dans la mesure où on se permet d'écrire des chansons qui sont faites pour être écoutées à la maison, mais qui emploient les outils et les sonorités de cette musique de club, de cette musique électronique. Et donc moi j'adore aussi, on adore tous les deux aussi la musique vraiment très dansante, mais en tout cas sur le morceau Shelter, on a vraiment réfléchi ça comme une chanson. On s'est vraiment soucié des paroles, de tout ça, et on s'est dit que quelle émotion supplémentaire on peut exprimer en utilisant comme ça les outils musicaux de la musique électronique.
Alors vous signez donc Shelter, un morceau très agréable à écouter, évidemment efficace dès qu'il s'agit de le jouer en club. Il est nourri de vos expériences à tous les deux. À votre avis, qu'est-ce que chacun d'entre vous a apporté à ce single? Un côté pop pour Madeon, par exemple?
C'est vrai que je me suis plus occupé de la chanson, donc je chante les paroles et on a écrit le texte ensemble. Et Porter a ramené notamment sa sensibilité de son de batterie, le côté très subby, avec des basses puissantes, tout en gardant de l'espace pour la mélodie. Donc on a finalement réparti les tâches sans vraiment d'intention particulière. C'était assez naturel. Mais on a voulu, oui, respecter nos univers respectifs. Donc je pense que tout ce qui est tout ce qui est plus mélodique vient de moi, tout ce qui est un petit peu plus composition d'accords et certains éléments de production reflètent un peu la sensibilité de Porter.
Ouais, d'accord. Alors cette collaboration, elle n'est pas éphémère puisque vous allez prendre la route tous les deux pour une tournée conjointe. Ça signifie que vous allez travailler et produire d'autres morceaux ensemble. Est-ce qu'on va avoir un live digne d'un vrai duo?
Alors le live, c'est clairement ça, c'est un tout nouveau show qui mélange nos discographies respectives pour donc si les gens qui viennent connaissent bien nos deux albums, je pense que ça va les surprendre et leur plaire, je l'espère. Et donc c'est un vrai nouveau live quoi, avec plein de surprises. On sait pas encore si on va faire d'autres chansons, on verra, mais bon, on aura plein de temps ensemble, donc on qui sait.
Porter, you're preparing a tour, a live performance on stage with Madeon. Are you preparing other tracks together for this tour?
Yes, well, it depends on how you see it, but we are in some ways kind of remixing each other's old discography. We're going to have many surprises. I don't want to spoil too much, but yes, there's going to be a lot of new contributions for the live show.
En fait, l'avantage quand on fait une interview chorale, c'est que on a Madeon qui veut pas trop en dire, mais en fait, en posant la question à Porter, on en sait un peu plus. On sait par exemple qu'ils vont se remixer mutuellement, c'est-à-dire que chacun va remixer la discographie de l'autre, et puis comme ça va permettre de préparer plein de surprises. T'as vu Madeon comment j'arrive à te la faire à l'envers quand même en reposant la question à ton alter ego, hein. En tous les cas, je suis obligé de t'interroger quand même sur ton changement de look parce que je sais que ça fait beaucoup parler, ou plutôt d'évoquer ton système pileux. Est-ce que tu voulais gommer ton image d'artiste sage?
Non, c'est quelle question? Non, écoute, je suis en studio beaucoup, donc je suis... J'ai toujours été...
Hipster.
Non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est simplement que... J'ai commencé à avoir une carrière publique très très jeune et
voilà.
Et c'est vrai que c'est important pour
Madeon. Voilà, les Français Madeon qu'on adore signent actuellement Shelter, un très beau single produit avec Porter Robinson. Au-delà de la musique, vous avez là deux jeunes artistes qui représentent l'avenir de la scène électro.
Novembre 2021. Antoine Baduel reçoit Angèle.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Angèle. C'est la belle surprise de cette fin d'année. La chanteuse Angèle est de retour 3 ans après la sortie de son album Brawl et de ses tubes comme Tout oublié, Balance ton quoi ou encore Oui ou non. L'artiste belge s'apprête à livrer son nouveau long format intitulé 95 et emmené par le single Bruxelles, je t'aime. La boucle est presque bouclée et il vient de sortir. Bienvenue à toi, ça me fait très plaisir de t'accueillir parce que c'est ta grande première sur FG, bien que la première radio à avoir lancé ton single, c'était à l'époque de la loi de Murphy, c'était FG, donc ça me fait super plaisir. Alors te voilà de retour avec ce nouveau single, Bruxelles, je t'aime, annonciateur d'un nouvel album, je le disais, de retour, même si tu n'es pas vraiment parti, puisque évidemment l'exploitation de l'album Brawl a été un plaisir, vraiment tout au long de ces singles. C'est quoi ton mood en ce moment? On repart de zéro, on est plutôt en mode début d'un nouveau chapitre ou tout simplement suite logique?
Un peu les deux. En fait, c'est autant une suite qu'un nouveau chapitre. C'est un second chapitre.
C'est le deuxième chapitre. Alors, je le disais, Bruxelles, je t'aime, mené et emmené par un clip assez touchant, un peu régressif aussi, où on devine ton amour pour Bruxelles, celui de l'enfant qui a grandi dans cette ville. Une vidéo avec pas mal de tableaux, pas mal d'indices cachés aussi. On sent que tu t'es bien amusé à le faire, le clip. Hein.
Ah ouais, c'est trop marré à le faire, le clip. Mais comme à chaque fois, C'est un peu le petit bonus quoi. Moi j'aime bien m'amuser avec l'image et tourner des vidéos qui peuvent parler aux gens parce que j'adore en fait regarder des clips. Donc c'est cool, c'est une façon en plus de pouvoir raconter une autre histoire. Et là l'histoire c'était le chemin dans un train d'un point A à un point B et puis tout ce qui peut s'y passer.
Et tout ce qui peut s'y passer, l'histoire de Bruxelles, je t'aime en l'occurrence, c'est pas celle d'un trop plein de Bruxelles, c'est celle d'un manque pendant le confinement évidemment. En plus et plus qu'une ville, c'est aussi un amour pour ta famille, pour tes amis. Est-ce que c'est ça justement le sous-texte de dire finalement Bruxelles tu me manques parce que tu dis aussi à tes proches vous m'avez manqué?
Bah évidemment c'est complètement ça, c'est complètement en fait l'idée de parler de la ville et des gens qui s'y trouvent aussi et des gens qui m'ont manqué pendant cette période très compliquée qui était le premier confinement, mais aussi le fait d'avoir été en tournée pendant 3 ans de ma vie à être dans les tourbus, dans les salles de concert et finalement pas chez moi en fait. Et créer cet album depuis Bruxelles a été c'était important en fait d'y être.
Et tu l'as vraiment créé à Bruxelles intégralement?
Intégralement non, parce qu'il y a des chansons qui ont été écrites dans le tourbus et des chansons qui ont été écrites à Paris. On a fait une partie du studio à Paris aussi avec mon cher Tristan Salvati, avec qui j'avais déjà coproduit Brawl, le premier album. Mais on a passé pas mal de temps à l'ICP à Bruxelles, qui est un studio assez connu, assez mythique, dans lequel on a vraiment pu s'amuser à trouver des nouveaux instruments, à essayer de trouver vraiment le son de l'album. Et c'est vraiment là que cet album il s'est révélé en fait.
Alors Bruxelles, héroïne de ton nouveau single, c'est aussi la ville de tes débuts, à fréquenter les piano-bars, à rencontrer ton premier public. Et c'est vrai qu'avec cela, du coup, la ville devient un terrain de jeu qui exacerbe à la fois tes joies, tes souvenirs, mais aussi les difficultés des débuts, les espoirs, les échecs. Est-ce que tu gardes justement un souvenir particulier de ces premières années, sinon de galère, au moins de découverte du métier à Bruxelles?
En fait, j'ai l'impression d'avoir plutôt découvert le métier plutôt en France, pour être honnête. Je crois que Bruxelles, ça a été vraiment le cadre parfait pour écrire les premières chansons, pour rencontrer Sylvie, ma manageuse, qui était donc ma babysitter. Donc c'est une histoire assez ancienne.
Ah ouais,
ancienne.
Donc c'est une histoire. Ouais. Ah, c'est intéressant.
Mais il y a aussi Nicolas qui est mon autre manager, donc ils sont deux. Et c'est là que tout a commencé, le terreau était là. Mais après, tout le reste, tout ce qui a été expansion en un coup, c'était plutôt à Paris. Donc il y a vraiment un mélange des deux en fait. Et c'est pour ça aussi que j'aime tant Paris, c'est que j'ai passé plein de temps. J'ai toujours vécu à Bruxelles, mais en vrai, j'ai passé parfois beaucoup plus de temps à Paris qu'à Bruxelles. Donc, ouais.
On en parlera justement de cet axe, de cette circulation artistique et de plein de choses d'ailleurs entre Paris et Bruxelles tout à l'heure dans l'interview. Bruxelles, ça fait partie de ces villes-mondes, pas forcément énormes mais centrales, d'abord parce que c'est le siège du Parlement européen, c'est une ville qui grouille de langues, d'énergie, de personnalités, de personnages, une ville à la fois bilingue, à dominante francophone mais bilingue, au milieu d'un espace flamand puisque c'est la Flandre. Y grandir, est-ce que ça forge une vision du monde un peu différente? J'allais dire, finalement, une vision aussi particulière du métier de chanteur ou de chanteuse, une vraie ouverture d'esprit.
En tout cas, je pense que le fait d'avoir plusieurs langages, donc effectivement le flamand et le français, mais aussi tout ce mélange de cultures lié à toute la communauté européenne vis-à-vis du Parlement, je pense que ça laisse une place au recul vis-à-vis de la langue française. En Belgique, on n'est pas tellement attaché en fait à la langue française, pas plus qu'à la langue néerlandophone, puisque de toute façon, on a les deux. Puis de toute façon, nous, on a notre propre façon de parler français, à commencer par 95, d'où le titre de l'album. Je pense que il y a une certaine ouverture à ce niveau-là en fait, et je crois que moi, j'ai pu me sentir légitime d'écrire en français parce que je m'identifiais pas en fait à des grandes figures de la chanson française, et ça me rassurait. Je me sentais pas. Quand j'avais plutôt, disons, allez, Brel ou Stromae comme exemple, je me disais bon bah ça va. Je trouvais que c'était des exemples qui sont des exemples assez accessibles. J'avais pas envie de commencer à penser à des grands. Par exemple, Gainsbourg, ça m'aurait mis beaucoup plus la pression en termes de texte, parce que j'ai pas l'impression dès que j'écris des textes comme Gainsbourg, mais je me sens plus proche de Stromae, par exemple.
Alors, justement, c'est vrai que c'est intéressant parce que toute cette scène bruxelloise, cette scène, elle est extrêmement riche. On en parlera là aussi tout à l'heure. Moi, déjà, on va parler déjà de Bruxelles au terme électro, parce que c'est vrai que Bruxelles, c'est pas anodin. Ouais. Bruxelles, la Belgique d'une manière générale, je pense aussi à Anvers. Tu sais que t'es sur FG, qui est la radio des DJ, la radio où des Daft Punk, des Guetta ont commencé leur carrière. Finalement, Bruxelles et Anvers, c'est des villes qui sont très réputées pour leurs fêtes, pour leurs clubs. Je pense au Fuse, au Ousland, je pense au Mirano, je pense à la Roca, je pense au Café d'Anvers et j'en passe. Ils ont toujours été très réputés, ils ont permis de faire émerger une certaine culture du clubbing. Est-ce que d'abord, toi, t'as été une clubbeuse ?
Alors, oui et non. C'est marrant, le Fuse, c'est la première boîte où j'ai été. Donc, j'ai mes premiers souvenirs de boîte là-bas.
En mode soirée techno ou à la démence ?
Non, en mode soirée techno, je sais pas du tout comment est-ce que je suis rentrée là, parce que j'avais vraiment une tête d'enfant, mais je prenais les cartes d'identité de mes potes et bon voilà. Et je dois beaucoup au Mirano parce que c'est là que se sont rencontrés mes parents, donc j'existe un peu quelque part grâce au Mirano.
Aux soirées Dirty Dancing.
J'en sais rien, mais oui, c'est il y a plein d'endroits où j'ai été, disons des endroits aussi mythiques.
Ouais.
J'ai pas été, mais que je connais de nom parce que c'est mythique.
Est-ce que ça vient de là justement cette appétence pour les remixes ? Parce que dès le début de tes tracks, soit il y avait un esprit un peu électro, on va le dire un peu aussi, mais surtout quand c'était des balades, il y avait quasi systématiquement des remixes. Et ça, pour un premier album, c'est pas courant. Et ça m'a toujours interpellé.
Bah en fait, c'était pas vraiment moi, c'était les remixes, ils existaient sans forcément que je le demande, mais j'ai toujours été hyper touchée en fait de justement d'avoir des chansons remixées, parce que je trouve que c'est assez agréable d'aller dans une direction et puis de se rendre compte qu'une chanson, elle peut exister de plein de manières. C'est un peu comme les covers. Il y a la façon dont moi je fais la chanson, dont moi je la vois, et après il y a la façon dont les gens vont se l'approprier. Et je pense à des remixes que j'ai découverts mais assez tard en fait, en me baladant sur YouTube, et j'étais contente de voir qu'il y avait d'autres façons d'écouter une chanson que j'avais écrite, dans le but de faire une balade, et puis que ça devenait autre chose.
Alors ta carrière, c'est 1 million d'albums vendus, un public énorme, pressé évidemment de te retrouver avec ce nouvel album. Je rappelle son nom, hein, c'est 95. Ce sont évidemment aussi des attentes. Alors forcément, pour une artiste, une pression qui est forte. Est-ce que t'es une warrior ? Est-ce que c'est une warrior qui a conçu cet album ? Ou alors est-ce que c'est aussi quelqu'un qui est en proie au doute et justement a finalement l'envie d'écrire une page différente, mais aussi forte, aussi puissante que la précédente ?
En fait, ouais, le doute, il fait complètement partie de ma vie, et je crois que si je doutais pas, il faudrait commencer à s'inquiéter, parce que c'est important de se remettre en question. Et j'ai eu des périodes vraiment de doute concernant cet album, parce que j'avais cette pression de me dire « Et si ça marchait pas ? Et si c'était de la grosse merde ?» Mais, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était moi qui pouvais le décider, que en fait, ce qui est important, c'est que ça soit surtout beau à mes yeux. Et c'est pour ça que je me suis donné, que j'ai travaillé dur pour cet album. En fait, je voulais qu'il me plaise à moi avant tout. Et je voulais me mettre aucune barrière. Je voulais pas en fait me poser trop de questions, mais je voulais me challenger. Donc en fait, je me disais pas il faut que ça plaise à tel public, ou il faut que je réponde aux attentes ou aux demandes de ce public incroyable que j'ai acquis avec Brol sans le vouloir. Il faut que je continue d'être fidèle à moi-même, et donc que je fasse cet album en étant à chaque fois fidèle en fait. C'est comme ça que j'ai trouvé la solution en fait pour pas commencer à angoisser. Et aujourd'hui, je suis plus angoissée, j'ai plus de doutes, en tout cas pas pour ce que j'ai fait là, puisque c'est fait, je peux pas retourner en arrière. Je sais pas comment ça va être perçu, mais ce que je sais, c'est que moi je suis hyper contente. Et en fait, c'est ça le.
Mais c'est ça l'essentiel. Ouais. Il sortira en tous les cas le 10 décembre prochain, hein, ce 95, successeur donc de Brol, qui date déjà, alors là j'étais halluciné, de 3 ans, alors comme le temps passe vite. D'autant
incroyable,
que toi, tu souhaitais évidemment exprimer quelque chose de nouveau avec cet album. Il a dû naître aussi, j'imagine, pendant une partie, toute ou partie de la crise sanitaire.
Tout à fait.
Où on a le temps aussi peut-être de réfléchir autrement aux choses. Et toi, pour le coup, c'est vrai que cette crise sanitaire, elle est arrivée à un moment où tu avais connu une ascension extrêmement rapide.
Ça a eu une grosse influence sur l'album ?
J'ai peut-être pas encore assez de recul pour le dire. Je pense que oui, forcément. Je pense que de toute façon, cette crise sanitaire, elle a une influence sur tout ce qui va naître dès à présent. Parce qu'il y a un avant et un après. Le vrai changement qu'il y a eu à l'intérieur, en tout cas pour moi, ça a été de prendre conscience de tout ce dont j'avais pas pris conscience avant, parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas le recul. Et là, le fait d'être vraiment à l'arrêt, ça a été l'occasion de me poser pour réfléchir à ce qui s'était passé, à si ça me plaisait vraiment, qu'est-ce qui me plaisait là-dedans, qu'est-ce que j'étais prête à recommencer, qu'est-ce que je voulais plus faire, qu'est-ce que j'acceptais, qu'est-ce que j'acceptais pas. Et c'est comme ça que j'ai trouvé vraiment cette confiance et que j'ai décidé d'avancer en fait et d'écrire un second album en me disant que j'avais une chance en fait inouïe de faire ce métier. Et quand je me suis retrouvée loin du public et un peu avec des questions, moi je me suis vraiment demandé si j'allais un jour retrouver le public. Je me posais vraiment la question. Enfin, c'est tous posé la question de savoir si on allait un jour vraiment retrouver cette vie d'avant. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas la vie d'avant, mais c'est une nouvelle et c'est une façon de voir les choses en me disant bah, j'en ai rêvé de voir ce public et c'est ça que j'aime et je vais tout faire pour retrouver un public.
Le track listing de l'album 95, il a été dévoilé. Il y a un feat avec Damso, une nouvelle fois. Alors évidemment, ma question, pour le coup, elle va être aussi à nouveau sur les remixes. Est-ce que tu vas justement davantage t'impliquer sur les remixes ? Est-ce qu'il y a des DJ entre-temps que tu as repéré, que tu aimerais toi désigner comme remixeur ?
Alors pour l'instant, pour être tout à fait honnête, pas vraiment. J'aime bien en fait l'idée d'être surprise et j'aime bien aussi l'idée de laisser les choses vivre par elles-mêmes. Je pense qu'on verra, mais c'est une bonne question. Ça pourrait à un moment arriver. Moi, je suis fermée à rien.
Tu sais que la semaine dernière, c'est un autre Bruxellois que j'ai interviewé, Lost Frequencies.
Pense à lui, justement.
Et tu sais qu'il a dit, juste en apprenant que ton single Bruxelles, je t'aime sortait, sans même l'avoir écouté, qu'il voulait en faire un remix. Alors, je l'ai un peu challengé sur le sujet. Et effectivement, il est hyper partant. C'est-à-dire que, pour le coup, il a lui aussi cette attache sur Bruxelles. Il a envie de s'impliquer. Je trouve que c'est génial. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est hyper touchant, c'est trop cool. Moi, j'ai tous les X, là, je reçois des stories de ces shows où il passe le remix de Flou et ça me fait vraiment kiffer parce que c'est beau de voir la chanson vivre en fait autrement, quoi. Donc, c'est très très cool.
Et c'est vrai que c'est stupéfiant de voir à quel point les artistes belges aujourd'hui s'imposent en France. On le disait, Lost Frequencies, on peut parler évidemment de toi, de ton frère, Damso, Stromae, qui comme toi reviennent en force. En même temps, ça a toujours été le cas, il y a toujours eu cette grande appétence du public français pour les artistes belges, les bruxellois. Est-ce que d'ailleurs pour toi ça fait une différence, la France, la Belgique, Paris, Bruxelles, ou est-ce que finalement t'as l'impression que tout ça, aujourd'hui, ça fait plus vraiment la différence, c'est un seul public, une seule sensibilité ou pas vraiment?
Aujourd'hui, moi j'ai cette chance de plus faire la différence parce que c'est devenu un grand public. Il y a des salles, évidemment, quand je vais à Bruxelles, je suis à domicile, donc c'est super cool. Et puis les gens sont contents, je pense, d'aller voir une Bruxelloise. C'est peut-être ça qui fait la différence. Après, les concerts à Paris sont géniaux. Il y a des concerts partout dans la France qui sont géniaux aussi. C'est pas tellement ça qui change, mais ce qui a peut-être changé pour moi, c'est que venant de Bruxelles, j'avais quand même toute une équipe d'artistes, notamment dans le rap, qui était déjà installée, qui m'ont vraiment soutenue. Et je pense que ça a aidé. Je sais pas si ça aurait été le cas si je venais pas du même endroit. On se connaît à peu près tous à Bruxelles. Il y a des connexions très faciles qui se font. Donc, je crois que, ça aide, évidemment. C'est une question de connexion, comme il y en a en fait à Paris aussi. Mais je dois dire qu'il y a des très bons artistes à Bruxelles, donc c'est cool.
Alors, je ne serais pas complet dans cette interview si je n'évoquais pas évidemment deux choses. Le single avec Dua Lipa, Fever. Comment ça s'est passé cette collab? Vous avez bossé ensemble? Raconte de tout.
Il y a eu un peu de tout parce que c'était pendant la pandémie, donc il y a eu pas mal de Zoom. Il y a eu pas mal d'échanges de mails, de ping-pong de mails à chacune à un endroit différent. C'était hyper cool de bosser parce que moi c'était une toute nouvelle façon de travailler. On a reçu le morceau, on l'a retravaillé. Moi, j'ai écrit ma partie, puis on a changé la structure et puis on a proposé des éléments de prod. Tristan a fait aussi partie de la boucle. Et ce qui a été génial, c'est qu'après on s'est retrouvés en fait à Londres et qu'il a fallu que je me confine. Et qu'elle aussi, parce qu'elle venait de Los Angeles. Donc on s'est retrouvés en fait à Londres pendant 2 semaines, confinés. Et c'était
là carrément
génial.
En quarantaine, c'est-à-dire que ouais. c'est même plus un morceau de confinement, c'est un morceau de quarantaine.
Complètement. Ah, et en fait, c'est comme ça que aussi notre complicité elle est née, et c'est ce qu'on voit dans le clip, et c'est réel en fait. On n'a pas joué à être amis, on se connaissait à peine, en même temps on a le même âge, on fait le même métier, c'est deux échelles évidemment différentes, mais on avait beaucoup de choses à se dire et à partager quoi.
Et avec un point commun aussi, c'est que vous avez une carrière, une ascension fulgurante et concomitante.
Ouais, c'est vrai. Après, ce qui est cool aussi, c'est que moi j'ai beaucoup appris en la regardant faire, parce que on a le même âge, mais elle a quand même quelques années derrière elle de plus d'expérience. Et puis c'est carrément notre échelle. Hein. On n'est plus entre la Belgique et la France, elle c'est le monde entier. Et cette fille, on pourrait croire que c'est un robot parce qu'en fait elle fait tout bien, mais en fait non, elle est hyper humaine. Donc c'était très intéressant comme rencontre.
Autre point dont il faut qu'on parle, désormais, c'est pas derrière le micro, mais c'est derrière la caméra aussi qu'on va te retrouver, puisque tu figures dans le prochain Astérix, ouais. Où tu joues le rôle de Falbala, la belle gosse du village gaulois. Ça s'est passé comment, cette aventure gauloise et cinématographique accessoirement?
Très bien. J'étais la
C'était
première
ta première
étonnée.
Fois derrière la caméra?
Non, en fait, déjà, il y a eu beaucoup de clips. Et c'est pas tellement différent que ça. C'est aussi une façon de raconter une histoire. C'est aussi une façon de jouer avec la caméra. Sauf que là, comme c'est pas moi qui choisis l'histoire, je dois vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais c'était hyper intéressant. C'était vraiment un exercice que j'ai adoré, que j'adorerais refaire. Mais avant, je voudrais bien voir le résultat. Parce que comme j'ai pas vu, c'est quand même pas mon métier.
Il sort quand le film d'ailleurs? C'est 2022?
Je sais pas. Je sais que là, ils sont au montage. C'est pas pour tout de suite. Faudrait être un peu patient. Mais en tout cas, ça m'a plu. Et puis évidemment, consécration, Falbala, moi, j'étais super, super honorée. Le film, il est réalisé par Guillaume Canet, qui est un artiste incroyable. Donc, c'était vraiment très cool aussi pour